Bonjour à tous. Nous sommes déjà au mois de février. Je pense que vous l'avez remarqué. Un mois est passé en 2020. Déjà un mois. Est-ce que nous marchons toujours dans la lumière? Au point où nous sommes déjà arrivés, eh bien, continuons d'avancer. Est-ce que vous connaissez ce tableau? Est-ce que ce tableau, vous l'avez déjà vu? Est-ce qu'il vous dit quelque chose? C'est un tableau d'Antonio Cicerri, un peintre suisse d'origine italienne du 19e siècle. Est-ce que vous reconnaissez la scène? Alors peut-être qu'on voit pas très bien, je sais pas. Mais... Est-ce que vous reconnaissez la scène? Est-ce que vous reconnaissez des personnages? Jésus, oui. Pilate, oui. Effectivement, ce tableau s'intitule « Ecce homo ». C'est du latin, et ça signifie « voici l'homme ». En référence à ce que Pilate dit au sujet de Jésus, « voici l'homme ». Et précédemment, les deux hommes ont dialogué, ou plutôt Pilate a interrogé Jésus à propos de son identité. Dans une de ses réponses, Jésus dit « Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Et en entendant le mot « vérité », Pilate a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» 2000 ans plus tard, est-ce que nous nous posons encore ce genre de questions ? Qu'est-ce que la vérité ? Aujourd'hui, en Occident, nous vivons dans une société qualifiée de post-vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Nous sommes dans une société de post-vérité. Nous vivons à l'époque des fake news, c'est-à-dire des fausses informations. En français, on a même inventé un mot, on appelle ça des infox, un mélange d'infos et d'intox, des infox. Nous vivons à une époque où nous entendons beaucoup de nouvelles, mais où nous ne savons pas toujours où est la vérité. Vous avez remarqué ? Nous sommes dans cette époque-là. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les faits qui comptent, puisque l'information peut être fausse. Mais ce qui compte pour vérifier la vérité de quelque chose, eh bien, c'est nos émotions. C'est notre expérience personnelle de la vérité. Je sais que c'est vrai si je pense que c'est vrai. Je sais que c'est vrai si j'éprouve de la peur, par exemple. Mon expérience ne peut pas me trahir. Et comme nous l'avons entendu aussi à travers les témoignages, en ce moment, ce qui fait peur, c'est le virus. Nous entendons toutes sortes de nouvelles, mais ce qui va être vrai pour nous va être lié à nos émotions. Et dans le monde où nous vivons, est-il encore possible de proclamer la vérité? Est-il encore possible de dire « je connais la vérité » Et je dis bien la vérité, la seule. Non pas une vérité parmi tant d'autres. Mais est-ce que dans le monde où nous vivons, il est encore possible de parler de vérité? À l'époque de Jean, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les chrétiens d'Asie mineure, dans cette région qui est entourée sur la carte, devaient faire face à des personnes qui remettaient leur foi en question. Jean leur écrit une lettre pour les rassurer. Ils sont du bon côté. Les chrétiens d'Asie mineure sont du bon côté, c'est-à-dire du côté de la vérité. La vérité en lien avec la personne de Jésus-Christ. Et comme à son habitude, l'apôtre Jean procède par opposition. La semaine dernière, nous avons vu que l'amour pour le monde était diamétralement opposé à l'amour pour Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir une opposition claire entre la vérité et le mensonge. Premièrement, en lisant ce passage de 1 Jean 2, nous percevons deux groupes ou deux camps opposés. Jean commence par décrire les adversaires du Christ, ceux qui s'opposent au Christ en niant la vérité sur la personne de Jésus. Alors voyons un peu plus près, qui sont-ils ? Nous voyons au verset 18 que leur présence indique que les chrétiens de l'époque vivaient la dernière heure. Et cette dernière heure, en fait, dans la Bible, désigne la période de l'histoire, qui est en fait la dernière période de l'histoire dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Pour vous montrer un petit peu sous forme de frise, cette période de l'histoire qu'on appelle la dernière heure a commencé à partir de la première venue de Jésus et s'achèvera au retour de Jésus. Et bien sûr, j'ai pas mis d'indication dans la frise parce qu'on ne sait pas encore quand Jésus va revenir. Mais nous sommes dans la dernière heure. Et durant cette période, l'opposition au Christ va se manifester avec la figure de celui qu'on appelle l'Antichrist. L'ennemi du Christ par excellence. Et vous pouvez en savoir plus sur cet Antichrist en lisant ce que l'apôtre Paul dit à son sujet. Et je vous renvoie à 2 Thessaloniciens 2. Or, l'esprit de cet Antichrist, l'esprit d'opposition, a déjà commencé à agir, notamment en ceux qu'on appelle ici les antichrists. C'est-à-dire ceux qui vont déformer la vérité concernant Jésus. Et ces antichrists, à l'époque de Jean, étaient faciles à identifier. Ce sont ceux qui sont sortis de l'Église. Sûrement par eux-mêmes, volontairement. Et pendant un temps, pourtant, ils étaient avec les chrétiens. Et c'est pour cette raison que les chrétiens à qui Jean s'adresse sont un peu troublés par le départ de ces gens, de ces personnes qui étaient avec eux et qui, à un moment donné, ont renié leur foi ou semblent avoir renié leur foi pour commencer à enseigner autre chose que l'Évangile. Et Jean précise que cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Par cette séparation, ces personnes-là montrent bien qu'elles n'étaient pas réellement converties. Qu'est-ce que nous apprenons sur leur enseignement à ces gens-là ? Eh bien, nous voyons qu'ils croient que Jésus, l'homme Jésus, n'est pas le Messie, le Christ. Verset 22. Qu'il n'est pas Dieu le Fils incarné. Ce qui a pour conséquence que ces personnes-là ne peuvent pas prétendre à une réelle communion avec Dieu le Père. Parce que s'ils rejettent le Fils, s'ils rejettent Jésus en tant que Fils de Dieu, eh bien ils rejettent une partie de ce que Dieu nous révèle de lui-même. Qu'il est Dieu le Père, qu'il est Dieu le Fils, qu'il est Dieu l'Esprit. Et donc ces gens-là ne peuvent pas connaître véritablement Dieu tel qu'il est. Et enfin, ses adversaires sont désignés comme des séducteurs, verset 26. Des personnes qui entraînent volontairement les autres dans l'erreur. Et Jean écrit cet épître pour mettre les chrétiens en garde contre ces enseignants de mensonges. Nous avons vu le camp des antichrists. Voyons maintenant face à ce camp les autres, ceux qui appartiennent au Christ, les chrétiens. Alors, dans l'épître de Jean, nous avons déjà vu pas mal de choses sur ce que signifie être un chrétien, ce que signifie la vie chrétienne. Ici, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les chrétiens, ce sont ceux qui sont restés dans l'Église, tandis que les autres sont sortis. Ensuite, ce que nous pouvons dire, c'est que ces chrétiens ont reçu une onction. On nous parle d'une onction de la part de Dieu, au verset 20. Et il faut comprendre cette onction vraisemblablement comme une image pour parler du Saint-Esprit. En effet, depuis le jour de la Pentecôte, tout croyant reçoit le Saint-Esprit au moment où il place sa foi en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre s'adresse à la foule et leur annonce « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ainsi, dans notre lettre, Jean affirme que les chrétiens ont bien reçu cette onction, le Saint-Esprit, de la part de Dieu. Verset 20. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Toute connaissance ? Est-ce que cela veut dire que les chrétiens savent tout ? Nous constatons nous-mêmes que ce n'est pas le cas. Nous ne savons pas tout. Mais ici, l'apôtre Jean affirme que par l'Esprit de Dieu, les chrétiens ont une connaissance suffisante. Suffisante pour comprendre qui est Dieu. Et plus précisément dans notre contexte, qui est Jésus ? C'est l'Esprit de Dieu qui nous a ouvert les yeux concernant la personne de Jésus. Autrement, comment aurions-nous pu reconnaître Jésus comme étant Dieu ? Et Jean rassure ses destinataires, ils connaissent la vérité. Quelle est cette vérité ? Eh bien, tout le contraire de ce qu'affirme l'Antichrist. La vérité, c'est que Jésus est bien le Christ. Il est bien le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils ont entendu depuis le début, depuis le commencement, depuis le début de leur vie chrétienne. C'est l'enseignement qu'ils ont reçu, c'est l'enseignement que nous avons reçu. Et ce message que nous continuons de proclamer aujourd'hui contient une promesse. Et cette promesse, au verset 25, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas rien de proclamer un message où la promesse, c'est la vie éternelle. Et enfin, dans la dernière partie de notre passage, Jean insiste de nouveau sur l'onction. L'onction que les chrétiens ont reçue, le Saint-Esprit. Ils ont l'Esprit Saint qui demeure en eux. Et cela suffit. Ils n'ont pas besoin d'un nouvel enseignement. Ils n'ont pas besoin d'une nouvelle vérité. Ils la connaissent déjà. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Deux camps, deux manières de penser. Et Jean est catégorique. Les uns sont dans la vérité et les autres sont dans le mensonge et enseignent l'erreur. Et je vous propose à présent de voir ce qui est en jeu ici. Qu'est-ce qui est en jeu ici ? Qu'est-ce qui est capital ? Mensonge ou vérité ? La semaine dernière, durant la formation sur l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, nous avions cette question. Comment savoir, par rapport aux autres religions, si le Dieu de la Bible est le vrai Dieu ? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question ? Comment savoir que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu ? Dans notre texte, ce qui est en jeu, c'est de connaître la vérité. La vérité à propos de Jésus-Christ. Qui est-il vraiment ? Les uns prétendent qu'il n'est pas le Fils de Dieu, et les autres croient qu'il est le Fils incarné. L'un des deux camps a forcément raison. Et pour Jean qui a vécu avec Jésus, il n'a aucun doute sur l'identité de son maître. Et il dénonce précisément au verset 22 qui est le menteur. Le menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le Messie, le Christ. Certains spécialistes ont pensé à cette fausse doctrine qui a été enseignée par un certain Sérinthe, un contemporain de l'apôtre Jean. Qu'est-ce que disait ce Sérinthe ? Eh bien, il prétendait que Jésus et le Christ, c'est deux choses ou deux personnes, on va dire, différentes. Jésus, le côté humain, Christ, le côté divin. Pour Sérinthe, le Christ est venu sur Jésus, donc le Christ, le divin, est venu sur Jésus lors de son baptême, ce qui explique tous les miracles que Jésus a pu faire. Et au moment de sa mort sur la croix, le Christ l'a quitté. Cette conception semble logique, en tout cas selon Serint, puisque le divin ne peut pas mourir. Le divin est immortel, il ne peut pas mourir, il ne peut pas rester sur une croix. Et sans doute qu'à l'époque, des personnes étaient influencées par cet enseignement, ou quelque chose qui ressemblait à ça. Et face à cela, les chrétiens doivent se positionner. Face à cela, Jean doit leur écrire pour les rassurer sur leur foi. Et il en est toujours ainsi concernant le christianisme, ou lorsqu'on s'attaque au christianisme. On touche d'abord à la personne du Christ. Et pour les antichrists, Jésus n'était qu'un homme et non pas le Fils de Dieu. Quelles sont les conséquences de ce mensonge? Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, non seulement Jésus est un menteur et son enseignement est un mensonge, mais surtout son sacrifice à la croix n'a aucune valeur pour nous. Un simple être humain ne peut pas payer pour l'humanité. Et dans ce cas, nous qui sommes réunis ici, nous ne sommes pas sauvés. Voilà quel est l'enjeu ici. Et face à un tel mensonge, Jean assure aux chrétiens qu'ils sont du côté de la vérité. Et à plusieurs reprises, justement, Jean emploie ce mot « vérité ». Et il l'oppose radicalement au mensonge. Il n'y a pas de mélange, ce n'est pas une demi-vérité. Et la vérité que nous devons sans cesse méditer dans notre cœur, c'est que Jésus est bien le Fils de Dieu incarné. Jean peut l'attester, il a fait partie de ceux qui étaient avec lui, qui ont vécu avec lui. Et c'est ce qu'il affirme déjà au début de l'Épître. Dieu, le Fils, est vraiment devenu un homme, et son nom est Jésus. Et c'est ce Jésus qui nous révèle qui est vraiment Dieu, qui est le Père. Prenons quelques passages qui vont dans ce sens-là. Dans Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Un autre passage de Jean bien connu, Jean chapitre 14, verset 6, c'est Jésus qui parle et qui répond à l'un de ses disciples, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et puis pour sortir un peu des écrits de Jean, nous retrouvons aussi dans l'Épître aux Hébreux un passage qui va dans ce sens-là. « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Il n'y a pas de doute là-dessus. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Et de ce fait, seul Jésus nous met en relation avec le véritable Dieu. Il est le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Et par sa mort à la croix, Jésus-Christ a reçu le châtiment que nous méritions à cause de nos fautes. Ces fautes qui nous éloignaient de la présence de Dieu. Jésus est mort et ressuscité, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi Jean peut dire que celui qui reconnaît le Fils connaît aussi le Père. C'est pourquoi Jean peut dire aussi que si les chrétiens restent attachés à ce qu'ils ont entendu depuis le début, à propos de Jésus, ils demeureront dans la communion avec le Fils et le Père. Avec le vrai Dieu, pour le dire autrement. Et ici, nous avons un magnifique passage qui concerne le Dieu trinitaire. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notons à ce propos le rôle du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà dit, c'est l'onction que les chrétiens ont reçue. Et par cette onction, par le Saint-Esprit, les chrétiens connaissent la vérité. Un jour, j'ai demandé à mon ancien pasteur comment je pouvais savoir si ce que je comprenais de la Bible venait de Dieu ou de mes propres pensées. Comment je pouvais savoir que lorsque je lisais la Bible, que je comprenais une vérité essentielle sur Dieu, cela n'était pas dû juste à mon intelligence. Il m'a répondu que si j'étais capable de comprendre ce que je lisais, c'était parce que l'Esprit m'aidait à le comprendre. Et je ne parle pas du sens des mots, parce que bien sûr, lorsqu'on lit la Bible, on peut comprendre ce qui est écrit. Mais je parle du message qui nous vient de Dieu. Du message qui nous encourage à changer de vie. Et si, en lisant la Bible, j'ai été convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, je ne l'ai pas compris tout seul. Je ne l'ai pas compris juste en raisonnant par moi-même. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu que c'est vrai. C'est l'Esprit qui me garantit que tout cela est vrai. Et concernant le Saint-Esprit et son rôle, nous pouvons apprendre trois choses, notamment à partir de l'évangile de Jean. D'abord que l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de vérité. Et c'est ce que nous retrouvons aussi dans notre passage au verset 27. Cette onction est véridique. Le Saint-Esprit est vérité. Deuxième chose, que l'Esprit nous enseigne. C'est son rôle de nous enseigner en tant que croyants. Il nous enseigne, il nous rappelle les paroles de Jésus. Et nous le voyons aussi au verset 27, cette onction vous enseigne sur toute chose. Et enfin, l'Esprit nous conduit dans la vérité et glorifie Christ. Et dans notre passage au verset 27, eh bien, nous retrouvons cette idée, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris, comme l'Esprit vous l'a appris. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre la vérité. Nous ne l'avons pas trouvée par nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle que ce Jésus est la vérité. Et c'est l'enseignement que les chrétiens de l'époque de Jean ont reçu et que le Saint-Esprit confirme. Et cet enseignement doit demeurer en eux. En un mot, Jean exhorte les chrétiens à rester fidèles à l'enseignement qu'ils ont reçu depuis le début. Et cet enseignement, je le répète encore une fois, concerne Jésus-Christ. C'est lui qui est mis en avant. C'est lui que nous sommes appelés, c'est en lui que nous sommes appelés à demeurer. Et tel est le message de notre passage de cet après-midi. Restons fidèlement attachés à Jésus-Christ et à la vérité qui le concerne. C'est pourquoi, dans notre application, nous allons insister sur le fait de demeurer, de rester attaché. Dans notre texte, deux impératifs nous indiquent ce que Dieu veut que nous fassions pour le restant de notre vie chrétienne. Que l'enseignement au sujet de Jésus demeure en nous, au verset 24, et que nous demeurions en Christ, en Jésus. Versets 27 et 28. Les chrétiens à qui Jean s'adresse ont reçu l'instruction. Peut-être de l'apôtre Paul, qui avait passé pas mal de temps en Asie mineure, ou de l'apôtre Jean lui-même. En tout cas, ils ont reçu la vérité, ils la connaissent. Et l'Esprit de Dieu qui est en eux le confirme. Et nous ? Qu'avons-nous reçu comme enseignement au début de notre vie chrétienne? Est-ce que vous vous souvenez encore de ce qu'on vous a enseigné au début? Des leçons peut-être que vous aviez entendues à l'école du dimanche, au groupe de jeunes. Est-ce que vous vous souvenez de vos cours de pré-baptême? Si vous en avez eu. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez enfin compris qui était Jésus? Mes amis, ce que nous avons reçu depuis le début de notre vie chrétienne n'est pas juste un enseignement qui date de 2000 ans. Nous avons reçu la vérité. Et la vérité ne change pas de nature avec le temps. Une vérité reste une vérité. Ce n'est pas 2000 ans plus tard que le message de l'Évangile serait autre chose que la vérité. Ce n'est pas 2000 ans plus tard que le message de l'Évangile deviendrait démodé. Et cependant, deux dangers nous guettent. Le premier, comme à l'époque de Jean, c'est que certains s'en prennent aujourd'hui à l'Évangile pour le changer. Les témoins de Jéhovah vont considérer que le Fils de Dieu n'est qu'une créature, et non pas Dieu lui-même. La théologie de la prospérité déclare que Jésus serait devenu un pécheur à la croix, et qu'il aurait purgé notre peine en enfer. Ce ne sont que quelques exemples. Des opposants au Christ, nous en aurons toujours, jusqu'au retour du Christ. Et ceux-ci s'opposent au Christ non pas forcément dans le sens où ils vont dénigrer Jésus, mais ils vont transformer la vérité à son sujet. Ça, c'était le premier danger. Et le deuxième danger, c'est que dans le monde où nous vivons, ce monde cultive en nous le goût pour la nouveauté. Nous sommes à l'époque de la notification. Nous sommes à l'époque où on nous encourage à rechercher du neuf. Qui voudrait d'un message qui date de 2000 ans? Et parfois, nous pouvons être tentés réellement de rechercher du neuf parce que nous trouvons que le message de l'Évangile que nous entendons dimanche après dimanche n'est plus suffisant ni satisfaisant. On a envie d'entendre autre chose. Est-ce que nous avons besoin, au XXIe siècle, d'un nouveau christianisme? Ma réponse est catégorique, non. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau christianisme. Restons attachés à l'enseignement que nous avons reçu depuis le commencement, depuis le début. Restons attachés à la vérité qui concerne Jésus-Christ et qui est contenue dans la parole de Dieu. Encore une fois, la vérité ne change pas de nature avec le temps. Alors que ce que vous avez entendu au sujet de Jésus-Christ demeure en vous. Et notre responsabilité en tant que chrétien est de ne pas nous écarter de cette vérité. De quelle manière? Je vous propose quatre manières, au moins. Quatre manières différentes. Premièrement, lire régulièrement la Bible. Alors on le répète suffisamment, mais lire régulièrement la Bible qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus et le salut qu'il va accomplir. Le Nouveau Testament nous rapporte comment Jésus nous sauve, effectivement. La Bible est incroyablement cohérente. Parce que, comme le disait un jour le théologien Henri Blocher, c'est le même esprit qui a inspiré tous les auteurs bibliques. Donc la Bible est cohérente. C'est le même esprit qui a inspiré tous les auteurs bibliques. Et c'est ce même esprit qui nous permet aujourd'hui de comprendre le sens de son message. Ça, c'était la première manière de faire. Deuxième manière, participer aux études bibliques que nous avons dans les groupes de maison. Discerner ensemble, en groupe, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Parce que les uns perçoivent des détails que nous n'aurions peut-être pas vus. Et puis les autres, qui sont plus expérimentés, peuvent nous expliquer vraiment ce que nous n'avons pas encore compris. Troisième manière de faire, se former. Prendre des cours bibliques. Les cours du lundi soir, du samedi matin, à l'Institut biblique de Nogent, par exemple. C'est juste à côté. Moi-même, j'y habite. Et je sais que certains d'entre vous le font déjà. C'est une autre manière de recevoir l'enseignement biblique de la part d'hommes et de femmes qui ont étudié la parole de Dieu plus que nous. Et puis, quatrième façon, et je ne l'oublie pas celle-là, écouter la prédication du dimanche. Et bien sûr, je n'exclus pas d'autres prédications que vous pourriez écouter durant la semaine, à condition qu'elles soient fidèles à la parole de Dieu. Par tous ces moyens que je viens d'énoncer, l'enseignement qui concerne Jésus-Christ demeurera en nous. Cependant, nous ne pouvons pas juste nous contenter d'un enseignement. Si je vous encourage à prendre des cours à nos gens, ce n'est pas uniquement pour que vous compreniez mieux la Bible, mais aussi qu'en comprenant la Bible, grâce à l'Esprit Saint qui est en vous, vous soyez saisis par Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Ce n'est pas d'en savoir plus sur la Bible. C'est que la parole de Dieu nous mène vers Jésus-Christ. Que nous soyons saisis par son amour, que nous soyons saisis par sa grâce. Et par deux fois, l'apôtre Jean, dans notre texte, exhorte ses destinataires à demeurer en Jésus. J'aimerais simplement vous interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer ? Demeurer, cela signifie rester au même endroit, sur place. Ne pas quitter son poste pour aller voir ailleurs. Demeurer, c'est en fin de compte être fidèle. Et c'est Jésus lui-même qui a demandé à ses disciples de demeurer en lui. Dans Jean 15, Jésus utilise l'image du cep et des sarments. « Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus décrit le lien spécial qui unit ses disciples à lui. C'est la plus belle relation que nous pouvons avoir sur cette terre. Pourquoi voudrions-nous quitter notre place pour aimer d'autres choses dans ce monde? Demeurons en Christ. Restons fidèlement attachés à notre relation avec le Christ. Est-ce que la fidélité, c'est quelque chose qui se vit un jour sur deux? Que penser, par exemple, d'un conjoint qui serait fidèle un jour sur deux? Non, c'est jour après jour. Jour après jour que nous sommes appelés à nous rapprocher de Jésus, à regarder à lui, à lui faire confiance, à compter sur sa grâce et à compter sur sa promesse de la vie éternelle. Ne résistons pas à l'esprit qui nous pousse vers Jésus. Jésus le mérite. Il est digne que nous lui accordions toute notre attention. Demeurons en lui jusqu'à son retour. Ça fait long, mais jusqu'à son retour. Long ou peut-être pas. Demeurons en lui jusqu'à son retour. Qu'il puisse nous trouver fidèles et non pas loin de lui. C'est ce que nous lisons au verset 28. Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas honte d'être loin de lui lors de son retour. C'est pourquoi, si aujourd'hui certains parmi vous reconnaissent s'être éloignés de Jésus ces temps-ci, il est encore temps de revenir à lui, pour demeurer, pour rester près de lui. C'est un défi, et peut-être même une lutte dans l'environnement où nous vivons. Nous sommes pris par tellement de choses, par notre travail, par nos études, par notre famille. Nos agendas nous empêchent parfois même de nous voir les uns les autres. Nous cumulons tellement de responsabilités, y compris dans l'Église. Où trouver le temps de demeurer en Christ, de rester sur place? Que rien ni personne dans ce monde ne nous éloigne de Christ. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de notre Sauveur et de lui seul. Le salut est en aucun autre. La vérité est en aucun autre. Et j'aimerais adresser un mot à ceux d'entre vous qui cherchent encore la vérité, qui ne se sont pas encore positionnés en tant que chrétiens. Continuez. Continuez à chercher la vérité. Menez l'enquête du côté de Jésus-Christ. Et selon l'apôtre Jean, le menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Menez votre enquête et voyez si Jésus est réellement ce qu'il dit être. Et justement, j'ai entendu chuchoter Jésus l'enquête et j'aimerais parler de cet homme, effectivement, Listrobal, qui est né dans les années 50. Et durant la première partie de sa vie, il s'est consacré au droit et au journalisme. Il travaillait notamment pour le Chicago Tribune. Et au début des années 80, sa femme est devenue chrétienne, alors que lui-même est resté un athée convaincu. Et pour démontrer que la foi chrétienne n'était qu'une mascarade, une supercherie, il décide de mener une enquête minutieuse sur l'événement clé qui est au cœur du christianisme, la résurrection du Christ. Parce que si Jésus est ressuscité, alors tout ce qu'il a dit est vrai. Et cette enquête va le mener à la révélation suivante. Jésus est bien le Christ. C'est une histoire vraie. Et je vous encourage à en voir l'adaptation. Si un athée convaincu, en faisant des recherches, a été convaincu que Jésus est le Christ, alors il doit y avoir de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Demandait Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, Pilate l'avait en face de lui, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Nous vivons les derniers temps et des personnes continueront à mettre le doute sur l'identité du Fils de Dieu. Mais tenons ferme, les amis, tenons ferme. Restons attachés à notre Seigneur. Demeurons en lui. Restons fidèles à l'enseignement que nous avons reçu. Ne cherchons pas à le changer. Et dans notre société post-vérité, nous continuons de proclamer la vérité de l'Évangile qui concerne notre Seigneur Jésus. Et si nous faisons des efforts pour nous attacher à cette vérité sans modifier le message, sans l'édulcorer, si nous faisons tous ces efforts, c'est pour pouvoir le partager. Imaginez si cette vérité était mélangée à du mensonge. Qu'est-ce qu'on communiquerait à nos contemporains ? Eh bien, du mensonge. Alors préservons cette vérité. Puissions-nous conduire les personnes vers Jésus-Christ. Et puissions-nous aussi compter sur l'action du Saint-Esprit qui lui seul les convaincra de la vérité. Jean rappelait déjà à son époque que Jésus reviendrait. Ne vivons pas comme si cet événement n'allait pas arriver prochainement. Au contraire, attendons avec assurance le retour de celui qui nous a promis la vie éternelle. Et assurément, quand il sera là, nous demeurerons avec lui. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te louer pour ta parole, qui est vraiment une lampe sur notre sentier et qui nous permet de cheminer dans cette vie qui n'est pas si facile. Nous sommes tentés de toutes parts, nous sommes testés de toutes parts au sujet de la vérité. Mais nous sommes convaincus d'une chose, ton esprit que tu as placé en nous, nous confirme que nous connaissons la vérité. À ton sujet, au sujet de Jésus. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, parce que grâce à cette assurance, nous pouvons aussi, avec assurance, dire que nous avons la vie éternelle. parce que nous avons placé notre confiance en Jésus seul. Et merci Seigneur de nous aider encore à pouvoir partager ce message qui est tellement important pour que nos contemporains, nos proches puissent connaître aussi la vérité, la seule. Et qu'ainsi, ils puissent aussi connaître la joie de pouvoir demeurer en toi. Cette merveilleuse relation que nous pouvons avoir avec toi. Merci Seigneur de nous encourager jour après jour à rester fidèles. Et c'est toi qui le feras, c'est toi qui agira en nous et qui nous rendra capables. Oui Seigneur, que ta parole, que ton évangile reste encore intact, quoi que nous puissions faire Seigneur. Et que des hommes et des femmes soient encore sauvés au nom de Jésus. Amen.